n'était pas tout à fait prêt. Vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Oui, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac.
Ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective, le magazine où l'on parle de cinéma à travers des actus, des invités, des chroniques, des montages sonores, de la musique, des conseils, des découvertes, des coups de cœur. Bref, 40 minutes, pas plus, quoique pas moins, consacrés au 7e art dans tous ses états. Vous pouvez nous retrouver en direct un mercredi sur deux à 19h ou en réécoute sur le site de Radio G à la page de l'émission. Je dis « nous » car je ne suis pas seule à m'adresser à vous, vous le savez bien. Nous sommes trois ce soir dans le studio. Bonjour Anne-Lie.
Bonjour Margot.
Enfin, rebonjour parce que ça fait déjà une heure qu'on t'écoute. Et bonjour Véronique.
Bonjour Margot, bonjour Anne-Lie.
Salut Véronique. Alors, au menu ce soir, on parle d'une bande dessinée qui vient de sortir, éditée par Casterman. Quelques indices, Margot ?
Elle est considérée comme la première femme réalisatrice de l'histoire du cinéma. Pourtant, son nom de famille est un prénom masculin. Son premier court-métrage, tourné en 1896, s'appelle « La fée aux choux ». Et pourtant, mon héroïne de ce soir est loin d'être dans les choux.
Vous avez trouvé ? Rendez-vous en fin d'émission. Margot, tu nous présenteras aussi l'agenda culturel des événements ciné dans la région.
Absolument. Et dans quelques minutes, nous serons avec Morgane Poquet, avec qui nous avons parlé du métier de programmateur cinéma, et plus particulièrement du Festival international du film de La Roche-sur-Yon, qui se déroule en ce moment et jusqu'à dimanche, le 17 octobre. Mais pour commencer, voici la séquence sonore concoctée par Anne-Lie. J'ai entendu dire Anne-Lie qu'elle était attendue avec intérêt par notre auditoire le plus fidèle.
Ah mais je m'en réjouis, je suis très touchée de cet intérêt. Je rappelle le principe car l'émission est quand même toute récente. Après avoir vu ou revu un film, j'en pioche et sélectionne des extraits, je mélange le tout et ça nous donne une séquence sonore dont on parle à la fin de l'émission.
Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La surface de Paris, et sans doute de la plus grande partie du monde, était inhabitable, pourrie par la radioactivité. Les prisonniers étaient soumis à des expériences qui semblaient fort préoccuper ceux qui s'y livraient. Il avait entendu parler du chef des travaux. Il pensait se trouver en face du savant fou, du docteur Frankenstein. Il vit un homme sans passion. Qui lui expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée, que l'espace lui était fermé, que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. Au 10e jour d'expérience, des images commencent à sourdre, comme des aveux. Un matin du temps de paix, lui ne sait jamais s'il se dirige vers elle, une chambre du temps de paix, une vraie chambre, s'il est dirigé, de vrais enfants s'il invente, de vrais oiseaux ou s'il rêve.
Eh bien, alors, avez-vous reconnu le film? Oui? Non? Bon, rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour dissiper le mystère. Et maintenant, pour parler de programmation de films, mais aussi de critique de cinéma, nous avons rencontré Morgane Poquet, un homme qui a fait de sa passion pour le cinéma un métier engagé et de partage. Bonjour Morgane, c'est avec grand plaisir que nous t'accueillons dans Caméra Subjective sur Radio G.
Bonjour Véronique.
Nous te rencontrons quelques jours avant notre émission, mais aussi avant ton festival, le Festival international de La Roche-sur-Yon en Vendée, pour lequel tu es conseiller à la programmation.
Exactement, festival qui a donc démarré ce lundi 11 octobre et qui se termine ce dimanche 17 octobre.
Mais avant de parler de ce festival, je te propose de parler un petit peu plus de toi. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter ou nous résumer ton parcours professionnel ? Parce qu'en fait, tu as un parcours qui est riche d'expériences à la croisée de l'écriture pour le cinéma et de la programmation de films.
Exactement. J'ai écrit pour plusieurs revues pendant plusieurs années, une activité qui est un peu en déclin de mon côté par manque de temps. Mais j'ai effectivement écrit pendant plusieurs années pour Critica, pour la Cité d'Obsession ou pour d'autres revues encore de manière plus aléatoire. Et j'ai commencé effectivement à faire de la programmation autant en festival qu'en salle depuis maintenant 5 ans à peu près, depuis que j'ai commencé à travailler au Concorde à La Roche-sur-Yon. Et voilà. Et après, je peux m'occuper par ailleurs de manière un peu plus aléatoire. On peut me demander de programmer pour des festivals à droite, à gauche, on m'occupait d'une rétrospective en particulier, comme là cette année au Festival de Belfort, qui aura lieu en novembre. Mmh. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent par-ci par-là au milieu d'activités beaucoup plus établies, comme la programmation du Concorde à La Roche-sur-Yon à l'année, ainsi que la conseiller de programmation pour le Festival donc, de La Roche-sur-Yon, mais aussi membre du comité de sélection pour la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes.
Comment tu fais pour faire tout ça?
Comment je fais? Bonne question. C'est beaucoup de travail, mais bon, ça c'est le lot de chacun. Il y a par ailleurs ce qui est relativement agréable, qui permet de tenir sur la durée. Ce sont des activités qui sont relativement complémentaires. Mmh. C'est évidemment, par exemple, les films que l'on voit pour la quinzaine des réalisateurs pour le Festival de Cannes, entre, on va dire, décembre et d'avril, lorsqu'on annonce la sélection pour le festival qui a lieu généralement, habituellement, au mois de mai, sauf cette année. Tous les films qu'on voit de la production quasiment mondiale sont évidemment autant de temps que je gagne à voir des films qui après sortiront en salle en France. Mmh. Donc ce sont des films que j'ai déjà vus à la fois pour le Festival de La Roche, mais aussi des films que j'ai vus également pour le Concorde. Donc il y a comme ça, c'est pour ça que c'est des activités relativement complémentaires. Après, au jour le jour, on se lève très tôt et on se couche très tard, mais bon, c'est le lot de chacun.
Ouais, j'imagine. Et je sais aussi que l'exigence est un petit peu au cœur de ton travail. Et est-ce que tu investis la même exigence pour choisir un film pour la quinzaine des réalisateurs à Cannes? Et du coup, quel sur quel registre, que pour le Festival de La Roche ou ton cinéma à l'année?
Ah, ce sont exigences, je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais en tout cas, c'est effectivement trois. On ne programme pas un même film selon les endroits ou le modèle dans lequel il s'inscrit. On ne programme pas un film de la même manière pour la quinzaine des réalisateurs, pour le Festival de La Roche ou pour le Concorde. Ce sont des manières différentes de considérer les œuvres, et c'est une manière différente de les amener au public, évidemment. Pour le festival, pour la quinzaine des réalisateurs, on est évidemment plus dans un rapport professionnel aux choses, le Festival de Cannes restant un festival professionnel. Pour le Festival de La Roche, on est entre les deux, entre un festival professionnel et un festival ouvert au grand public. Et évidemment, la salle est un espace créé, programmé, pensé pour les spectatrices de La Roche-sur-Yon et presque du département. Donc oui, ce sont trois manières différentes de penser la programmation. C'est pour ça qu'on ne considère pas un film de la même manière pour la quinzaine, pour le festival et pour la salle de cinéma. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie, hein. C'est juste trois manières différentes de concevoir, de penser la programmation et de permettre que l'œuvre rencontre le mieux possible le public auquel elle est destinée.
Et alors, on est dans une forme d'idéal, c'est-à-dire tu essayes de programmer ce qui te tient le plus à cœur ou qui correspond le mieux à tes publics. Mais j'imagine qu'après, tu as la réalité du métier et des réseaux professionnels qui te rappellent à l'ordre sur on ne fait pas tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on voudrait.
Oh, il n'y a personne qui me rappelle à l'ordre. Mais effectivement, c'est pas la programmation n'est pas... on ne programme pas ce qu'on aime. Hein. Ça, c'est une lubie ou un fantasme. On programme pour un public. Et on peut, encore une fois, on programme différemment selon les publics auxquels on s'adresse. Donc la question n'est pas de savoir, la question de mes goûts, de mon petit goût personnel rentre évidemment en discussion, mais on pense aussi aux personnes auxquelles on s'adresse, c'est évidemment important. On ne fait pas une programmation pour soi, hein, on fait une programmation pour un public. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, il n'y a pas besoin de me le rappeler. C'est quelque chose auquel on pense, c'est un critère extrêmement important du travail de programmation. Sinon, on reste 6 mois et on se fait généralement... Si c'est pour programmer des films dans des salles vides, ça n'a absolument aucun intérêt.
Oui, bien sûr.
On est là pour partager, donc et d'amener, faire un travail à l'année, au long cours. Hein, c'est, évidemment, on ne conçoit pas une programmation sur un seul fait, mais c'est un équilibre. Je pense que le mot équilibre est plutôt là pertinent, un équilibre qu'on essaie de trouver pour chaque lieu, chaque public auquel on s'adresse, en leur proposant à la fois, par exemple pour le Concorde, évidemment, on propose à la fois les films art et essai, on va dire, pour le dire généralement et rapidement, auxquels les spectateurs s'attendent. Évidemment, par exemple, les films qui sont présentés à Cannes ou des films qui sont attendus, et à la fois, on essaye de les surprendre. Donc, c'est une espèce de mélange entre proposer des choses attendues et proposer des surprises. Et parfois, généralement, c'est le plus beau, c'est le public qui vous surprend.
Mmh. Est-ce que tu as un exemple d'une des dernières soirées que tu aurais fait au Concorde qui aurait été une surprise ?
Écoute, la dernière soirée qui me vient en tête, c'est évidemment la venue de Nadav Lapid pour le genou d'Aed, qui a eu le prix du jury au dernier festival de Cannes. Et voilà, qui est un film a priori difficile, politiquement engagé. On est dans une période extrêmement instable pour la question concernant la fréquentation des salles. Donc, bon, sa venue était une question. Et la salle était remplie, donc voilà, on était évidemment très heureux et voir évidemment les spectateurs et les spectatrices venir en nombre pour accueillir sa venue et pour découvrir le film et discuter longuement avec lui. Et évidemment, ça c'est une surprise à chaque fois. À chaque fois qu'on programme des événements spécifiques dans les cinémas au Concorde, à chaque fois c'est évidemment une joie de voir la salle remplie parce qu'on lance, c'est pas comme on lance un défi, où on se lance un défi à soi-même, où on lance une question au public, est-ce que vous allez venir ? Et puis ils te répondent, et puis c'est superbe.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que programmer, c'est militer, c'est s'engager dans la société ?
Militer, je ne crois pas, ou en tout cas militer pour donner au cinéma sa place, qu'on estime, à titre personnel, j'estime grande et importante, et avec une haute idée du cinéma. Après, militer, non, au sens... l'idée, ce n'est pas de propager des idées ou de les imposer. Ça, je m'y refuse. L'idée, c'est de travailler ensemble plutôt. C'est pas contre. On travaille pas contre quelqu'un ou contre une idée. On a beau avoir des idées soi-même, le but n'est pas de les imposer aux autres, mais de travailler ensemble pour tout le public de La Roche-sur-Yon ici en l'occurrence.
Oui, bien sûr. Avant de parler un petit peu plus, de passer sur la découverte du festival de La Roche-sur-Yon, est-ce que toi, tu as à tes heures perdues, tu peux continuer à écrire?
Oui, à mes heures perdues, je peux continuer à écrire. Des préparations de livres, où là, je viens de finir un texte pour le festival de Belfort, pour le festival d'entrevue en Belfort, pour lequel je m'occupe d'une rétrospective. Je continue encore à écrire, oui, d'une manière beaucoup plus lointaine.
Bon, alors maintenant, parlons de l'actualité de La Roche-sur-Yon, le Festival international du film. Quelles sont les grandes lignes, en fait, et les particularités de cette édition ?
Alors, c'est un festival généraliste, sans spécificité thématique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un festival uniquement composé, par exemple, de films européens, comme Angers. On est sur... il n'y a pas de durée, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de spécificité thématique. Donc, c'est vraiment un festival généraliste. La Roche-sur-Yon, on essaye d'être à la fois sur des codes de narration de films extrêmement différents, avec des œuvres assez... avec des codes modernes de narration, mais aussi avec des objets, des formes plus classiques, au sens noble du terme. Et un festival composé énormément de premières françaises. Donc, c'est la première fois que les films sont montrés à un public, avec les invités, avec les équipes de films. On compose également des focus, des hommages, des cartes blanches. Voilà, c'est une espèce de mélange de propositions assez différentes. Et la spécificité, c'est qu'il y a deux compétitions qui sont à l'image un peu de ce que je viens de dire, puisqu'il y a une compétition internationale et il y a une compétition de nouvelle vague, tous en première française, et la nouvelle vague est avec des films qui abordent dans leur narration, avec un regard des codes de narration un peu plus pointu, mm-hmm. et une compétition internationale avec des codes de narration plus accessibles, tout en essayant à chaque fois de surprendre, évidemment, le spectateur ou la spectatrice du festival.
Alors là, cette émission, donc nous la diffusons en ce mercredi, et du coup, il nous reste 4 jours avant la fin du festival. Quels sont tes coups de cœur ou les choses que tu aurais envie de nous présenter pour donner envie aux spectateurs de venir passer ces 4 derniers jours à La Roche?
Par exemple, ce jeudi, pour un petit peu montrer l'étendue du festival, on va présenter en première française le dernier Lion d'or de la Mostra de Venise, un film français, l'événement d'Audrey Diwan, son second long métrage après une adaptation d'un livre de Annie Ernaux, en présence de la réalisatrice. Ce sera ce jeudi à 18h30. Et le soir, on passe Suprême, donc le biopic d'Audrey Estrougo, pardon, sur l'ascension du groupe MTM. Évidemment, avec d'autres propositions internationales en même temps. Le vendredi, on a Alain Guiraudy qui vient pour une carte blanche accordée à l'occasion de la parution de son second roman, Rabalahir. Et il a choisi de programmer Antonio das Mortes de Glauber Rocha, des chefs-d'œuvre du cinéma brésilien de la fin des années 60. Après, le samedi, on a la grande chance de pouvoir montrer le nouveau film de Pedro Almodovar, Madres Paralelas, un mois et demi avant sa sortie en France. Last Night in Soho d'Edgar Wright. Et également, en première française, un film qui était présenté également à Venise et avec toute l'équipe qui vient, qui s'appelle Manuit. Un film d'Antoinette Boulard, voilà, qu'on aime beaucoup, et toute l'équipe sera présente samedi soir et dimanche matin également. Il y a une reprise le dimanche pour présenter le film, voilà, qui raconte la nuit d'une jeune femme dans Paris, presque en temps réel.
Merci, ça est vraiment très attrayant. Tu connais les TGV accélérés pour venir te retrouver rapidement?
Depuis Angers, ça se fait rapidement.
Il y a
une
petite
escale à Nantes, mais ouais. Il y a même des directs depuis Angers.
Exactement. Une petite question sur le travail de territoire que vous menez tout au long de l'année avec le cinéma. Et à l'occasion du festival, voilà, je sais que vous êtes aussi dans une démarche très ancrée autour de vous. Et qu'est-ce qui se passe un petit peu là pendant le festival?
Alors, pendant le festival, il y a plusieurs séances qui sont décentralisées. On travaille aussi avec des cinémas de l'agglomération, avec lesquels on a un partenariat aussi à l'année. C'est des cinémas qui sont également au conseil d'administration, pardon, du cinéma, donc avec qui on discute, j'allais dire quotidiennement, mais plutôt mensuellement. Et effectivement, on fait des séances pendant le festival, des films présentés pendant le festival. On a même des équipes du festival présenter les films dans les cinémas aux alentours de La Roche-Orient. Donc c'est vrai qu'il y a un travail sur tout le territoire, qui est aussi un travail qu'on mène à l'année, avec des actions multiples, évidemment sur le jeune public, évidemment sur l'accessibilité du film à des publics empêchés. On travaille également un travail qui me tient un petit peu à cœur avec les détenus de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, auxquels on présente des films et les invités vont aussi leur présenter leurs œuvres. Voilà, c'est un travail sur le terrain qui n'est pas forcément le travail le plus visible, mais c'est un travail auquel on tient excessivement. Merci d'en parler.
Ouais. Et puis, un festival, c'est faire la fête. Et comment on fait la fête à votre festival?
Alors, on fait la fête déjà en allant au cinéma, parce que c'est une fête. Et ensuite, on a des bars partenaires. Il y a un bar dans le quartier général du festival, Le Ciel, voilà, où il y a la billetterie. Et après, évidemment, il y a différents lieux qui nous accueillent, des lieux de nuit qui nous accueillent, mais aussi, par exemple, le Fusion, qui est la salle de concert, la SMAC de La Roche-sur-Yon, la scène de musique actuelle de La Roche-sur-Yon, qui est un lieu de concert dans lequel on fait également des projections, voilà, et des films qui sont plutôt liés à la musique. Par exemple, on fait une projection du Suprême dont je vous parlais à l'instant, mais aussi un film Summer of Soul, un film de Disney sur des archives historiques de fin des années 60, où à Harlem s'est organisé un concert un peu en même temps qu'au Woodstock, et ce concert avait été filmé, les images n'avaient jamais été montrées. Donc on est très content de pouvoir montrer ça, et évidemment on peut même danser. Il y a un bar, voilà, tout ça est très sympathique et festif.
Bon, eh bien, vraiment, merci Morgane pour toutes ces précisions.
Merci Véronique.
Tu donnes vraiment très envie de venir à La Roche. Merci pour ce moment partagé autour de cette passion commune que nous avons pour le cinéma. Très bon festival, très bonne fin de festival.
Merci.
Merci pour cette rencontre.
À bientôt.
À bientôt.
On espère vous avoir donné envie de découvrir le Festival international du film de La Roche-sur-Yon. C'est en ce moment et jusqu'au 17 octobre. Toute la programmation est sur le site, bien sûr. Vous la retrouvez via le podcast de Caméra Subjective sur le site de Radio G. On n'a pas parlé des rétrospectives, mais il y en a. Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Belmondo et Jean-Claude Carrière. Beaucoup de gens. Vous allez découvrir tout ça et peut-être à La Roche-sur-Yon. On écoute un titre issu de la bande originale de Fragile. Je vous dirai l'artiste juste après.
أم الفوضى وصبرا قالوا عليها مريولة من خوف حزامي عديان نكوي قلبي وحدي أنا لم نشكي
C'était Enjoum de Sofiane Saïdi, Mazalda et Amar 808, un titre issu de la bande originale de Fragile, un film de Emma Benestan qui est sorti cette année, que j'ai personnellement apprécié. Vous écoutez Radio G et ses caméras subjectives, et maintenant c'est le rendez-vous de l'agenda cinéma avec Margot.
Et oui, c'est parti pour un agenda cinéma bien rempli cette semaine. Nous avons déjà parlé du festival de La Roche-sur-Yon, mais plus près de nous, si vous aimez le tango et que vous appréciez le cinéma, rendez-vous demain soir au centre Jean Villard à Angers pour la projection du film Tango à l'Ouest de Céline Thieu. soit une bande de danseurs amateurs passionnés qui courent les bals de tango. Au fil de leurs répétitions, la réalisatrice suit l'apprentissage des couples et le groupe qui s'invente. Tango à l'Ouest, c'est un documentaire, comme tous les films proposés dans le cadre de l'événement Dog d'ici et d'ailleurs, dont c'est la 5e édition cette année. Ce mini-festival propose cette semaine des rencontres, des expos et des projections de films sur le thème de la danse. Le tango donc, mais aussi le hip-hop ou le flamenco. Rendez-vous au centre Jean Villard et au 122, tiers-lieu culturel, les deux espaces qui accueillent cet événement jusqu'à dimanche.
Margot, tu nous recommandes aussi un autre documentaire.
Oui, et celui-là, il est visible non pas en salle, mais sur petit écran. C'est un film sensible et doux qui s'appelle « L'enfant et les voix graves ». Derrière ce titre digne d'un conte, son réalisateur Vincent Pouplard, dont on a pu voir les films au festival Premier Plan d'Angers, nous donne à vivre le confinement par les yeux et surtout par la voix guillerette de sa fille de 2 ans, Talia. Cette blondinette espiègle observe le monde depuis sa fenêtre. La pluie qui tombe dans le jardin, le ciel sans avion et les tombes du cimetière dans la rue où habite la famille. Tout la fascine, tout la questionne, et ses commentaires enjoués comme sa bouille intriguée nous touchent en plein cœur. L'enfant et les voix graves de Vincent Pouplard sera diffusé le 18 octobre, c'est-à-dire lundi prochain, sur France 3, Pays de la Loire, vers 23h. Pour les couches plus tôt, vous pourrez le rattraper en replay sur le site de la chaîne pendant 1 mois. Maintenant, on change complètement d'ambiance avec ce petit extrait. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Alors, est-ce que vous avez reconnu ? C'était « I'm calling you », la chanson phare du film « Bagdad Café » réalisé par Percy Adlon en 1987. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, dans le tourbillon actuel de nouveautés qui se pressent sur nos écrans chaque semaine, j'ai parfois besoin d'un antidote pour résister à une certaine anxiété cinématographique qu'on pourrait définir comme la frustration de ne pas avoir le temps de voir tous les films qui me font de l'œil. Et Bagdad Café, c'est vraiment un de mes films doudous. Par sa musique d'abord, dont je ne me lasse pas, mais surtout pour la bande de marginaux aussi esseulés qu'attendrissants qui gravitent autour de ce motel délabré au milieu de nulle part. Jusqu'au jour où débarque, un peu par hasard, Jasmine, une touriste allemande. Et petit à petit, tous ces clochards célestes vont se regarder, s'écouter et créer société. Alors quelle chance, vous pouvez voir ou revoir Bagdad Café sur grand écran ce dimanche à 17h45 au cinéma Les 400 Coups, dans le cadre d'une projection ciné-classique.
Et Margot, tu as une dernière actu pour conclure cet agenda cinéma.
Absolument. Des grands espaces américains à l'espace tout court, il n'y a qu'un pas, ou presque. Je ne pouvais pas terminer cet agenda sans vous signaler que quelque part au-dessus de nos têtes, en ce moment même, se déroule le premier tournage dans l'espace d'un long-métrage de fiction. Le film est tourné sous la houlette du réalisateur russe Klim Shipenko, qui prend ainsi de vitesse l'équipe américaine du prochain Mission Impossible avec Tom Cruise. Alors je n'ai pas d'infos sur le scénario, mais il se murmure qu'un nouvel épisode de la guerre froide version soft power se jouerait peut-être actuellement dans la Station Spatiale Internationale.
Ouhou ! Eh bien, atterrissons maintenant, parce que c'est l'heure de la séquence sonore. Anne-Li, tu vas tout nous dire.
Oui, on a écouté des extraits d'un film, et je vais tout vous dire sur ce film. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un film court, mais qui n'en est pas moins un monument de cinéma. Margot, tu l'as reconnu ? Non. c'était La Jetée, réalisée par Chris Marker en 1962. Alors, dans la première partie de la séquence sonore, peut-être avez-vous reconnu l'atmosphère de ce film qui nous place dès les premiers mots dans un univers dystopique. À Paris, après la Troisième Guerre mondiale, dans un monde dévasté où les survivants se sont réfugiés dans les souterrains de Chaillot. Le scénario nous raconte une situation critique, mais la phrase d'ouverture nous invite dans une histoire universelle. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Je ne vous en dis pas plus, sinon vous saurez déjà tout et vous avez déjà compris qu'il était question de temps et de science-fiction. Mais pour qui n'a pas encore vu La Jetée, il faut essayer de vous représenter à quoi ressemble ce film. L'image est en noir et blanc, très bien, et surtout, nous regardons des images fixes. En effet, le film est annoncé au générique comme un roman photo. Et finalement, c'est un diaporama. À l'exception d'un unique plan filmé, il est vrai. Et oui, le diaporama peut être cool. La Jetée, c'est donc une grande simplicité de moyens dans la réalisation, des photos argentiques, mais qui n'empêchent pas des montages très réalistes, comme cet arc de triomphe en ruine, et la voix d'un unique narrateur pour nous accompagner parmi les ambiances sonores et la musique de Trevor Duncan. Le son est bien évidemment très important dans ce film. Il n'y a pas d'effet magistral, ni de rythme effréné, mais j'aime les films qui nous rappellent que ce qui compte avant toute chose, c'est l'histoire qu'on nous raconte. Ici, tout est évidemment finement écrit. La Jetée, ce sont 28 minutes de méandre pour une résolution en 60 secondes qui vous laissera rempli de questions. Et comme notre personnage, on ne sait pas toujours dans quelle temporalité on se trouve. Car comme on peut l'entendre, rien ne distingue les souvenirs des autres moments, ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître. La Jetée de Chris Marker, un film qui a bientôt 60 ans mais qui est toujours frais. On peut le voir et le revoir, c'est à chaque fois un beau moment et toujours différent. Il est très facile à trouver et le lien est déjà dans la description du podcast pour le voir sur le site de Radio G à la page de Caméra Subjective. Oui, je devais faire une suite. C'est la transition d'une chronique, c'est à toi Margot.
Et oui, c'est à moi.
Alors, tu me parles BD ? Ah non, je ne dis rien.
Tu ne dis rien. 2021 est décidément une année pour les femmes dans le domaine du cinéma. Chloé Zhao a remporté en avril l'Oscar du meilleur film, Julia Ducournau la Palme d'Or à Cannes en juillet, et il y a quelques semaines, c'est une autre réalisatrice française, Audrey Diwan, qui a obtenu le Lion d'Or à la prestigieuse Mostra de Venise. Alors on attend avec impatience le palmarès du Festival de Berlin en janvier pour voir s'il y aura un grand chelem féminin des plus hautes récompenses en matière de cinéma. Loin de moi l'envie d'interroger ce soir la pertinence de cette entrée aussi tardive que fracassante des femmes dans l'arène de la reconnaissance cinématographique mondiale. J'ai plutôt choisi de me faire l'écho de ces réussites en évoquant avec vous celle qui est aujourd'hui reconnue comme la première femme réalisatrice de l'histoire du cinéma. Et des histoires de cinéma, elle en a imaginé et réalisé à foison. On lui attribue la maternité de plusieurs centaines d'œuvres, de ses premiers films courts pour Léon Gaumont, à ses premières réalisations américaines, d'une durée de plusieurs bobines, en passant par de multiples photoscènes, qui sont en fait des ancêtres des premiers films sonores. Elle s'appelait Alice Guy, et elle était française. Elle est née en 1973 en France et elle s'est éteinte 95 ans plus tard, en 1968, aux États-Unis. Sa fabuleuse destinée est racontée dans un formidable roman graphique qui vient de paraître chez Casterman, signé du duo Cattel et Bocquet. Elle, c'est Cattel Muller qui signe les illustrations. Un travail titanesque puisque l'ouvrage fait plus de 300 pages, soit autant de planches à storyboarder, crayonner puis ancrer. Son dessin est expressif et l'équilibre entre les noirs et les blancs, l'ombre et la lumière, le trait et le vide de la feuille, soutient à merveille le propos. Le scénariste, justement, c'est José-Louis Bocquet, qui transforme la vie d'Alice Guy en une épopée passionnante. À deux, ils ont déjà signé les biographies remarquées de plusieurs héroïnes méconnues de l'histoire. Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges ou Joséphine Baker. Enfin ça, c'était avant l'annonce de son entrée au Panthéon.
Nous avons effectué énormément de déplacements pour retrouver les lieux où Alice a vécu. Il y a eu également un important travail de recherche sur les décors, les costumes, les accessoires. Mais si notre récit est aussi documenté, c'est avant tout parce que nous avons besoin d'y croire nous-mêmes.
Relate Cattel Muller. C'est peu dire que leurs recherches ont été méticuleuses. Le duo a littéralement autopsié l'existence d'Alix Guy. De façon originale et particulièrement pertinente, ce portrait graphique est organisé en courts chapitres rattachés systématiquement à un lieu. La maison d'enfance d'Alix Guy, les divers pensionnats en Suisse où elle a fait son éducation quand sa famille vivait au Chili, le comptoir de la photographie à Paris où elle a commencé comme secrétaire, l'établissement Gaumont qui lui a succédé et au sein duquel elle est devenue la directrice des prises de vue, les studios de la Solax, compagnie de production qu'elle a montée seule aux États-Unis en 1910, ou ceux de la Victorine, à Nice, qu'elle espérait relancer à son retour en France en 1922. À travers la multiplicité de ces lieux se déploie la vie tumultueuse d'Alix Guy, pionnière audacieuse du cinéma, réalisatrice innovante et féconde, entrepreneuse indépendante et chef d'entreprise énergique, à une époque où elle faisait bien figure d'exception.
Alice est une pionnière dont le destin est en résonance perpétuelle avec l'histoire du cinéma, son économie et ses évolutions techniques.
Explique José-Louis Boquet, le scénariste. À travers la figure d'Alix Guy, la bande dessinée retrace les tout débuts du cinéma. En ressort le portrait d'une époque fascinante dont le bouillonnement industriel a accompagné la naissance du 7e art. On découvre ainsi les tâtonnements techniques, les guerres de brevets entre Français et Américains, la course à l'allongement de la durée des films, l'essor des tournages de plus en plus lourds et les hésitations avant d'aboutir au modèle économique que nous connaissons encore, centré sur la projection publique en salle des films. La période est aussi un formidable tourbillon créatif et Alix Guy rencontre tout ce que Paris puis les États-Unis comptent de personnalités importantes. Georges Méliès, les frères Pathé et les frères Lumière, Gustave Eiffel, puis Buster Keaton ou Charlie Chaplin.
Le regard d'Alice est singulier, féminin et d'une extrême modernité.
Ajoute Katel Müller. Et comme Méliès, Alix Guy comprend très vite que le cinéma ne doit pas seulement montrer la réalité, des ouvriers qui sortent d'une usine, un train qui rentre en gare, ou capter la vie sur le vif comme la photographie. Les films doivent faire rêver le spectateur. Et c'est ce qu'elle entreprend de faire dès ses premiers courts-métrages, imaginer et raconter des histoires. Alix Guy adapte des opérettes et des romans classiques. Elle filme des gags et une vie du Christ en plusieurs épisodes et 300 figurants, un grand succès. Et forte de sa popularité, elle aborde également dans ses films des sujets plus engagés qu'on qualifierait probablement de féministes aujourd'hui. Le désir féminin, avec Madame à ses envies, ou la charge mentale et le renversement des rôles entre mari et femme. Installée aux États-Unis, elle tente même en vain de produire un film sur le contrôle des naissances, ce qui était un sujet très tabou. Elle se marie sur le tard avec un opérateur rencontré chez Gaumont, Herbert Blacher, avec qui elle part s'installer aux États-Unis. Une dizaine d'années plus tard, Alix Guy demande le divorce et élève seule, en France, leurs deux enfants. Elle consacre les dernières années de sa vie à rechercher, souvent en vain, et tenter de rassembler la multitude de films qu'elle a réalisés aux États-Unis et dont beaucoup ont malheureusement disparu. Elle écrit également son autobiographie, qui sera publiée quelques années après son décès. Dorénavant, grâce au roman graphique de Catel et Boquet, le grand public peut désormais redécouvrir cette réalisatrice incroyable.
Pour que la société évolue, il faut des modèles. Notre travail est de donner à nos filles des modèles de femmes affranchies, libres et insoumises.
Conclut Catel Müller.
Alix Guy est une bande dessinée signée Catel et Boquet, éditée par Casterman dans la collection Les clandestines de l'histoire.
Plusieurs films réalisés par Alix Guy sont disponibles en DVD. Une grande partie de sa production française est éditée en vidéo par Gaumont. En revanche, les films de sa période américaine ont pour beaucoup disparu. 9 d'entre eux, qui ont pu être retrouvés et restaurés, sont édités en DVD par Lobster Film.
Merci Margot pour cette recommandation et ce conseil. C'est l'heure de se quitter pour cette troisième édition de Caméra Subjective que nous avons le plaisir de terminer à l'heure. Et c'est une grande joie pour nous. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission en ligne, à la page de l'émission bien sûr, sur le site de Radio G, évidemment, www.radio-g.fr. Il y a toutes les références et même les liens vers les événements cités dans l'agenda, dont certains se déroulent demain. Et oui, donc dépêchez-vous d'aller voir tout ça. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci si vous nous avez déjà envoyé des mots d'encouragement que nous avons reçus avec beaucoup de plaisir et de joie. Vous pouvez nous suivre via une newsletter. Et pour ça, il y a une adresse mail qui est indiquée à la page de l'émission, toujours Je pense que j'ai tout dit.
Moi, je rajoute qu'effectivement, les messages personnels sont toujours très appréciés.
Est-ce que vous voulez nous dire un peu de quoi on va parler dans 2 semaines ? Ou ce sera la surprise ? Je vous prends au dépourvu.
Non, bah...
on n'a pas le temps.
C'est terrible. Alors,
on termine à l'heure, c'est l'important.
www.radio-g.fr